Mes souvenirs 5. Avant de laisser elle, j'avais reçu une lettre de la sœur Marie des Anges. Mon ancienne maîtresse m'invitait à assister à D, à une retraite annuelle prêchée aux anciennes élèves de l'école normale. Je me promis bien de n'y pas manquer. J'avais un sérieux motif pour cela. Quelles expressions pourraient rendre un compte fidèle de mes impressions lorsque je franchis le seuil de ce sanctuaire béni où j'avais vécu de longs jours? J'y rentrai après 18 mois d'absence à peine. Mais que d'événements passés dans ce court espace! Que de choses semblaient me défendre l'entrée de cette maison qu'habitaient l'innocence et la chasteté! Le premier visage que j'aperçus fut celui de ma bonne maîtresse. Le sien n'avait pas subi d'altération. C'était bien toujours la même sérénité, la même expression de grandeur chaste et résignée. On avait prononcé mon nom. Elle accourait avec ce divin sourire qui témoignait de sa joie. Ses deux mains se tendirent spontanément vers moi. Je les approchai de mes lèvres. La noble femme me remercia en termes simples et affectueux d'avoir répondu à son appel. Plus de 40 institutrices, toutes ses élèves, étaient accourues de divers points pour retremper leurs forces par quelques jours de solitude pieuse. Les vacances étant données, la maison tout entière était à notre disposition. Beaucoup parmi elles m'étaient inconnues. D'autres, au contraire, étaient de mon âge et avaient été mes compagnes d'études. Je les revis avec infiniment de joie. Un religieux, missionnaire, prêchait la retraite dont les exercices avaient lieu dans la chapelle du couvent, asile sacré que, sans doute, je revoyais pour la dernière fois. J'avais besoin de ce calme religieux, au milieu des agitations toujours croissantes de ma vie. Au moment, peut-être, de mettre une barrière infranchissable entre le passé et l'avenir, j'avais besoin de me recueillir en face de Dieu. Mon projet était de m'ouvrir, en toute franchise, à ce confesseur inconnu et d'attendre son arrêt. On peut se figurer l'étonnement, la stupéfaction que lui causa mon étrange confession. J'avais fini. Il gardait le silence le plus réfléchi. Mes chutes, mes misères n'avaient excité en lui que la plus douce commisération. J'avais, pour ainsi dire, mis ma destinée entre ses mains en l'établissant mon juge. « Mon enfant, me dit-il, la situation est des plus graves et exige de sérieuses réflexions. Ce n'est pas dès maintenant que je puis tracer devant vous une ligne de conduite. Revenez demain. Et dans 2 jours, je pourrai vous donner mon avis. » Mon anxiété était grande. Je sentais mon existence suspendue aux paroles annoncées. Je ne dormais pas ou je dormais mal. Le délai fixé était écoulé. Voici le conseil que me donna l'abbé. « Je ne vous dirai pas, me dit-il, ce que vous savez comme moi. C'est-à-dire que vous pouvez, dès à présent, prendre dans le monde le titre d'homme qui vous appartient. Assurément, vous le pouvez, mais comment l'obtiendrez-vous? Au prix des plus grands scandales, peut-être. Vous ne pouvez pas cependant garder votre position actuelle, si pleine de dangers. Le conseil que je vous donne est donc celui-ci. retirez-vous du monde et entrez en religion. Mais gardez-vous bien de renouveler l'aveu que vous m'avez fait. Un couvent de femmes ne vous admettrait pas. Ce moyen est le seul que je vous propose, et croyez-moi, acceptez-le. » Je me retirai sans rien promettre, car je ne m'étais pas préparée à un pareil résultat. On me proposait d'éviter un éclat pour me créer une situation plus dangereuse encore, devant aboutir à un scandale inévitable. D'un autre côté, je n'avais pas le moindre goût pour la vie monacale. Un sentiment trop fort me retenait ailleurs. J'étais résolue à tout, plutôt que de le briser. Dans cet état de choses, je me décidai à attendre les événements. Le lendemain de ce jour, je l'ai cédé. En me séparant de ma chère maîtresse, j'étais bien convaincue que je ne devais plus la revoir, du moins dans les mêmes conditions. Tout était donc fini entre elle et moi. Un abîme allait nous séparer. Cette pensée m'attrista singulièrement. Je vois encore son angélique regard fixé sur le mien, tandis que mes mains pressaient les siennes. Mon Dieu, si elle avait pu lire en mon âme! Je tendis mon front à ses lèvres si pures, et les miennes se collèrent sur sa joue. C'en était fait. J'avais rompu pour toujours avec les doux liens de mon passé. Arrivé à B, j'évitai avec un soin extrême toute occasion d'entretien particulier, soit avec ma mère, soit avec Monsieur de Saint-Aime, dont la touchante sollicitude ne m'abandonnait pas. Après son déjeuner, je lui lisais le journal, je mettais en ordre ses papiers d'affaires. On causait familièrement avec cet abandon qui naît de la confiance et de l'estime réciproque. J'allais ensuite confier au papier mes pensées intimes de chaque jour, mes impressions, mes regrets. Tout cela était destiné à Sarah, qui, de son côté, m'envoyait régulièrement, une fois par semaine, une longue lettre que je dévorais dans le silence de mes nuits. Chacune de ces missives m'invitait à abréger le temps passé loin d'elle. Nous étions au milieu d'octobre. J'avais promis à Madame P. d'arriver chez elle vers cette époque et je tenais essentiellement à tenir ma promesse. Combien de temps encore devais-je habiter sa maison? Je l'ignorais. Une explosion pouvait avoir lieu d'un moment à l'autre. J'y étais résignée à l'avance. Plus la crise approchait, plus je sentais grandir mes forces. Mais Sarah? Le service des postes avait été modifié. Cette fois, je n'arrivais à elle que vers le milieu de la nuit. On ne m'attendait plus à cette heure. Madame P. était au lit. Elle m'embrassa avec cordialité et voulut se lever pour me préparer à manger, ce que je refusais formellement. « Alors, me dit-elle, allez bien vite vous reposer. Sarah est couchée, elle dort sans doute. Vous allez la surprendre agréablement. » Je ne me le fis pas répéter deux fois. Ma jeune amie avait reconnu ma voix. Elle m'attendait les bras ouverts. Nous ne dormîmes guère cette nuit-là. Le bonheur nous tint lieu de sommeil pendant de longues heures. Nous avions tant de choses à nous dire. Il en résulta qu'à une heure fort avancée, nous n'avions pas bougé. Madame P. vint entr'ouvrir nos rideaux et nous gourmanda amicalement sur notre paresse. Je voulus répondre sur le même ton, mais j'étais réellement troublée. Après le départ de sa mère, Sarah me fit une confidence dont je fus atterrée. Les larmes la suffoquaient. Si ses craintes étaient fondées, nous étions perdus l'un et l'autre. Une véritable épée de Damoclès était suspendue sur nos têtes. Sarah craignait sa mère autant qu'elle la respectait. L'idée d'avoir à rougir devant elle lui était chose insupportable. Je me représentais parfois le courroux, la fureur, l'indignation de cette mère apprenant la honte de sa fille. Et cela en des circonstances impossibles à prévoir. J'avoue que, tout en redoutant un pareil événement, je l'appelais de tous mes vœux. Cela arrivant, rien ne pouvait s'opposer à notre mariage avec Sarah. Mais que d'amers reproches j'aurais eu à endurer. Rien de particulier ne va marquer les premiers mois de cette seconde année. La monotonie de notre existence à elle n'était rompue que par les mystérieuses douleurs d'un amour caché à tous, échappant à toutes les prévisions humaines. Je n'avais plus aucune espèce de rapports avec le curé. Cet homme m'était odieux. Bien qu'il fît de fréquentes visites à Madame P., il s'abstenait de rentrer à la classe. Je ne pouvais en douter, ma présence seule l'en empêchait. Il évitait jusqu'aux moindres occasions de m'adresser la parole. Je m'en félicitais, car je n'aurais peut-être pas eu la force de modérer mon antipathie. Je l'avais abandonné. Par suite, Sarah m'avait imité. Sa méchanceté profonde m'était connue. À un moment donné, il pouvait devenir un terrible ennemi et se venger de mon mépris. Ce moment, il l'épiait. Je le comprenais. Pour se dédommager de notre silence à son égard, il avait imaginé un espionnage, le plus douloureux de tous. La plupart de nos élèves se confessaient à lui. Non content de leur adresser une foule de questions personnelles, plus ou moins déplacées, vis-à-vis d'enfants si jeunes, il en arrivait adroitement à se faire rendre par elle un compte détaillé de toutes nos actions. Incapable d'échapper à cette inquisition, les pauvres enfants avouaient tout et nous en prévenaient ensuite. Je m'abstiens ici de qualifier un pareil acte. Un fait que je dois signaler ici vint attirer l'attention sur notre maison. Une rumeur sourde vint un matin mettre en émoi la population de L. On venait d'apprendre en même temps la grossesse et l'accouchement d'une enfant à peine âgée de 14 ans. L'étonnement était à son comble. Cet enfant avait été notre élève. On ne lui connaissait aucune espèce de relation pouvant faire découvrir le nom de l'auteur. La maison qu'elle habitait chez ses parents était presque contiguë à la nôtre. Nous la voyions donc souvent. À cette nouvelle, Madame P. jeta les hauts cris. Elle était sur ce chapitre d'une susceptibilité farouche et parfois ridicule. Les égarements de la passion ne trouvaient pas d'excuses en cette âme desséchée par la morale étroite de l'abbé. On le comprend. Cet incident était de nature à me faire réfléchir sérieusement aux suites probables de ma liaison avec Sarah. Ce qui ajouta à l'effet produit par cet événement fut la conduite de la jeune fille. Elle refusa constamment de nommer le coupable. Son obstination ne put être vaincue. Le médecin qui l'assistait l'avait vu naître. Il insista vainement pour obtenir un aveu. Tout fut inutile. Le père de son enfant, dit-elle au docteur, était un commis voyageur. L'indication était assez vague. Il fallut que la famille s'en contentât. Peu de temps après, elle laissa la localité avec son père et sa mère. Un changement allait s'opérer dans la famille de mon ami. Sa sœur, Madame A, allait partir avec son mari, appelée à de nouvelles fonctions dans un département voisin. C'était un chagrin véritable pour sa mère dont elle était l'idole. C'était en même temps la cause d'un sérieux embarras, car, bien que je fusse en réalité à la tête du pensionnat, Madame A en avait toujours la responsabilité vis-à-vis de l'académie. Je n'étais pas encore majeure, et je ne pouvais, par conséquent, sans une autorisation spéciale, prendre la direction réelle de l'institution. Madame P. en causa longuement avec moi. Elle avait fait le rêve de me céder un jour son établissement. À cet égard, je ne la contrariais point. Je voyais s'approcher le jour où tous ses plans tomberaient d'eux-mêmes. Pour le moment, néanmoins, je devais accepter ses propositions. Il s'agissait pour moi de demander à monsieur l'inspecteur d'académie l'autorisation de succéder à madame A comme maîtresse de pension jusqu'à l'époque peu éloignée où je pourrais légalement porter ce titre. Ainsi que je l'ai dit, l'inspecteur était parfaitement disposé en ma faveur. Un refus de sa part n'était donc pas probable. D'un autre côté, par M. de Saint-Aime, j'étais sûre de l'appui du préfet. Je l'obtins en effet. Ma demande fut agréée, ce qui causa la plus grande joie à Mme P. Mme A partit avec son mari vers le milieu de l'hiver, nous laissant à tous des regrets. À quelque temps de là, les douleurs que j'avais déjà éprouvées se firent ressentir plus fréquentes, plus intenses. Sarah s'en inquiétait, insistant toujours pour que je visse un médecin. Pour rien au monde, je n'y aurais consenti. La violence du mal fut telle qu'il fallut s'y résigner. Prévenue par sa fille, Madame P. fit venir le docteur T. Je n'ai pas oublié cette visite. Les moindres circonstances me sont encore présentes à l'esprit. Il était près de 6 heures du soir. On n'avait pas encore allumé. L'appartement où je me trouvais avec le docteur était plongé dans une demi-obscurité dont je ne me plaignais pas. Les réponses que je fis à ces questions étaient pour lui une énigme au lieu d'être un éclaircissement. Il voulut me sonder. On le sait, vis-à-vis d'une malade, un médecin jouit de certains privilèges que personne ne songe à contester. Pendant cette opération, je l'entendais pousser des soupirs comme s'il n'eût pas été satisfait de son examen. Madame P. était là, attendant une parole. J'attendais aussi, mais dans une disposition d'esprit toute différente. Debout près de mon lit, le docteur me considérait avec une attention pleine d'intérêt. Des exclamations sourdes lui échappaient dans le genre de celle-ci. « Mon Dieu, serait-ce possible ?» Je comprenais à ses gestes qu'il eût voulu prolonger un examen d'où jaillirait la lumière. Ma couverture était relevée. Mes vêtements en désordre laissaient voir la partie supérieure de mon corps. La main du docteur s'y promenait, indécise, tremblante, jusqu'à l'abdomen, siège de mon mal. À force de tâtonnement, elle venait de s'y appuyer, sans doute, car je jetais un cri perçant, tout en la repoussant vigoureusement. Il s'assit alors près de moi, insistant doucement pour que je reprisse du courage. Il en avait sans doute besoin lui-même. La décomposition de son visage trahissait une agitation extraordinaire. « Je vous en prie, lui dis-je, laissez-moi, vous me tuez. « Mademoiselle, je ne vous demande qu'une minute, et ce sera fini. » Déjà, sa main se glissait sous mon drap et s'arrêtait à l'endroit sensible. Elle s'y appuya à plusieurs reprises, comme pour y trouver la solution d'un problème difficile. Elle ne s'arrêta pas là. Il avait trouvé l'explication qu'il cherchait, mais il était facile de voir qu'elle dépassait toutes ses prévisions. Le pauvre homme était sous le coup d'une émotion terrible. Des phrases entrecoupées s'échappaient de sa gorge comme s'il eût craint de les laisser passer. J'aurais voulu le voir à 100 pieds sous terre. Madame P. n'y comprenait absolument rien. Par pitié pour moi, elle voulut abréger cette scène fatigante en entraînant le docteur. « Adieu, mademoiselle. » me dit celui-ci avec un demi-sourire. « Nous nous reverrons. » Je me levai immédiatement pour aller rejoindre Sarah, occupée dans la salle d'études. Son regard m'interrogea. je la mis en peu de mots au courant de ce qui s'était passé. Au dîner, je remarquai que Madame P. était plus sérieuse que de coutume. Elle ne savait pas dissimuler ses impressions. Sa préoccupation, son embarras étaient visibles. À la fin du repas, j'allai me chauffer un moment dans la cuisine. « Mademoiselle Camille, me dit-elle, j'ai envoyé chercher les remèdes prescrits par le docteur. Mais il ne reviendra pas. Je m'y suis formellement opposée. » Que signifiait une pareille injonction de sa part? Savait-elle quelque chose et craignait-elle d'en savoir davantage? Voilà ce que je me demandais intérieurement, sans répondre en rien à ses paroles. Quand nous fûmes couchés, Sarah m'apprit que le médecin avait eu une longue conférence avec sa mère. Mais c'était tout. C'en était assez pour m'inspirer des craintes que mon amie partageait avec moi. Dans cette circonstance, je l'ai su depuis, cet homme, sans s'expliquer ouvertement avec Madame P., lui avait adressé à mon sujet une foule de questions fort délicates, auxquelles celle-ci répondit à peine, ne pouvant croire à la pensée qui les motivait. Le soupçon ne pouvait entrer dans son âme, il eût été terrible, elle le repoussait énergiquement. En face d'une si aveugle obstination, le docteur ne crut pas devoir prendre l'initiative que lui commandait son titre et sa foi d'honnête homme. Il se contenta de l'engager à m'éloigner de sa maison et au plus vite, croyant se dégager par là de toute responsabilité. Je le répète, son devoir lui traçait une autre ligne de conduite. En pareille circonstance, l'indécision n'était pas permise. Elle était une faute grave, non seulement vis-à-vis de la morale, mais aux yeux de la loi. Épouvanté du secret qu'il avait surpris, il préféra l'ensevelir à tout jamais. Moins instruite que lui, Madame P. était peut-être plus excusable, sans être pourtant à l'abri de tout reproche. La chose valait la peine d'être examinée. Assurément, une autre n'eût pas apporté la même faiblesse. Loin d'en vouloir au docteur, elle aurait dû le remercier et chercher le moyen de sortir de là. Elle ne le fit pas, pour plusieurs raisons qui toutes étaient mauvaises. D'abord, elle craignait un éclat, pouvant porter atteinte à l'honorabilité de sa maison et compromettre ses intérêts. Ensuite, elle avait en moi une confiance sans bornes. Accepter les insinuations du docteur, c'était en même temps douter de sa fille et son orgueil se révoltait à cette idée. Elle poussait la naïveté jusqu'à croire que j'étais dans une ignorance complète de ma position. C'était l'absurde poussé au dernier degré. Je n'ai jamais pu comprendre qu'une femme de son âge, de son expérience, pût conserver une semblable illusion. L'affection que me témoignait Sarah ne devait-elle pas lui ouvrir les yeux? Non, elle aurait craint de nous donner l'éveil en nous montrant le plus léger soupçon. Pauvre femme! Cet incident, quelque grave qu'il fût, ne changea en rien notre train de vie ordinaire. Madame P. avait repris sa sérénité, nous notre gaieté. Dans une excursion au dehors, il nous arriva souvent de rencontrer le docteur T. Je coudoyais Sarah. Il passait, non sans me saluer avec un sourire. Que devait-il penser en nous voyant rire, accouplés? Étrange situation. Son silence, son attitude à mon égard, me semblait une énormité révoltante. J'eus plusieurs fois l'idée de provoquer une explication de sa part en lui mettant sous les yeux la fausseté d'une situation dont il me fallait sortir, à quelque prix que ce fût. Sarah repoussait bien loin toute détermination de ce genre. C'était pour elle non plus la réparation, mais la honte, la médisance attachée à toute sa vie. Hélas, je le comprenais. Le monde, après avoir flétri en quelque sorte une liaison innocente en apparence, serait-il indulgent pour une intrigue amoureuse? Non, sans doute, il devait être impitoyable. Il voudrait nous faire cruellement expier le bonheur silencieux de 2 années. Il avait été chèrement acheté, ce bonheur. Mes occupations n'avaient pas été interrompues. Un jour, en présence de Sarah, Madame P. me faisait des recommandations maternelles relatives à ma santé. Sans être malade, j'étais réellement fatiguée, affaiblée. Mes nuits étaient agitées. Une sueur presque continuelle, sinon abondante, augmentait encore mon malaise. Tous les soirs, avant le coucher, on me préparait une boisson réchauffée toute la nuit par la flamme d'une veilleuse. « Vous n'omettez pas de la prendre, n'est-ce pas, mademoiselle Camille ?» me dit madame P. « Sois tranquille, maman, je couche avec elle et je m'en charge. » Sa mère s'était redressée tout à coup. « Quant à cela, je te le défends expressément. J'ai mes raisons. Et j'ajouterai que si mon autorité ne suffit pas, j'aurai recours à celle d'un autre. Je t'en fais un cas de conscience. » Nous ne répondîmes pas, et pour cause. Bizarre contradiction. Cette femme rougissait intérieurement de cette intimité de nos rapports, et elle tolérait ma présence dans une institution de ce genre. Elle voyait un danger pour sa fille dans une nuit passée à mes côtés. Elle n'en voyait pas à partager le même appartement, vivre de la même vie, dans cet échange habituel de soins familiers, de caresses, de baisers. Tout cela lui paraissait sans doute fort innocent. Aujourd'hui même, je cherche encore le mot de cette énigme. Il m'échappe. À partir de ce moment, commença pour nous une nouvelle phase de notre existence, de laquelle pouvait naître un danger que nous n'étions plus seuls à redouter. Une surveillance active, quoique dissimulée, suivait chacun de nos pas. Madame P., malgré son apparente tranquillité, avait perdu cette insouciance affectée que n'avaient pu ébranler les avertissements du docteur. Elle avait de nouveau fait la défense formelle à sa fille de partager mon lit. C'était une transaction tardive, devenue plus dangereuse qu'utile. En effet, comment admettre que cette défense, quelque solennelle qu'elle fût, pût être respectée par nous? N'était-ce pas demander à la nature un sacrifice héroïque dont elle est incapable? Pour détourner les soupçons, il fut décidé que le soir chacun occuperait son lit séparément. Seulement, vers le milieu de la nuit, le premier réveillé allait rejoindre l'autre jusqu'au lendemain matin. De cette façon, à moins d'événements imprévus, personne ne pouvait nous surprendre, car les dortoirs étaient entièrement séparés du principal corps de logis et Madame P. n'y venait jamais. Dans le courant de l'été, je reçus la visite de l'inspecteur de l'arrondissement. Il fut tel que je le désirais, c'est-à-dire courtois et bienveillant. D'habitude, il était escorté de monsieur le curé. Cette fois, il vint seul. Décidément, je ne plaisais pas à notre estimable pasteur. Cela me valait au moins d'être dispensé de sa présence, à laquelle je n'attachais pas précisément beaucoup de prix. On attendait dans la famille un nouveau-né. La sœur cadette de Sarah allait être mère pour la première fois. Inutile de dire que ce moment était attendu par tous avec la plus vive impatience. La jeune femme venait tous les jours à la maison. Les préparatifs étaient faits. Devant moi, l'amie intime de Sarah, on ne se gênait pas. Naturellement, j'étais initiée à tous ces petits détails secrets qui se communiquent entre personnes du même sexe. Une nuit, nous dormions depuis peu de temps, mon ami et moi, lorsqu'on vint heurter à la porte de l'escalier ouvrant sur les 2 salles. La servante venait nous annoncer la naissance d'une petite fille. Saisie au moment de se coucher par les douleurs de l'enfantement, la jeune femme avait pris le bras de son mari et s'était rendue en toute hâte chez sa mère. 2 ou 3 heures après, elle donnait le jour à une fille. Nous étions descendus immédiatement, vêtus à peine, poussés par la curiosité autant que par l'intérêt. Madame P. était rayonnante de joie. Je m'approchai du lit où reposait la jeune mère. Elle nous tendit les mains à tous deux avec une expression d'ineffable ravissement. La souffrance avait encore embelli ses traits et leur avait donné ce charme particulier qui révèle toutes les joies de la maternité. Sa main nous avait montré le berceau placé à ses côtés. Sarah avait découvert la petite créature et la couvrait de baisers. Je contemplais cette scène avec une émotion que je contenais à grand-peine. Debout, entre les deux lits, je regardais tantôt Sarah, tantôt cet enfant. Ma vue ne pouvait s'en détacher. Mon émotion n'avait pas échappé à Madame P. Elle me regardait attentivement, ne sachant à quoi attribuer la rêverie dans laquelle j'étais plongée. Si le bandeau qui lui couvrait les yeux eût été moins épais, si son aveuglement eût été moins grand, sans doute la vérité dans tout son éclat pouvait lui apparaître et remplacer par l'épouvante son impassible confiance. Aimait-elle mieux rester dans le doute que d'aborder ce terrible mystère? Cela peut être. Tous les jours, je venais passer de longues heures dans cette chambre. L'état de Madame G. était des plus satisfaisants. Quand elle put se lever, elle venait nous trouver pendant la récréation, allaitant son enfant sous nos yeux. Sarah idolâtrait sa petite nièce. Elle l'enviait à sa sœur. Qui sait? Au milieu du bonheur qui m'enivrait, j'étais affreusement torturée. Que faire, mon Dieu? Que résoudre? Ma pauvre tête était un chaos duquel je ne pouvais rien démêler. M'ouvrir à ma mère, mais il y avait de quoi la tuer? Non, elle ne pouvait être initiée par moi à une telle découverte. Prolonger indéfiniment la situation? C'était m'exposer inévitablement au plus grand malheur. C'était outrager la morale dans ce qu'elle a de plus inviolable, de plus sacré. Et plus tard, ne pouvait-on pas me demander compte d'un silence coupable et faire peser sur moi les tristes conséquences que d'autres auraient dû prévoir? Les vacances approchaient. J'allais de nouveau me séparer de ma bien-aimée Sarah. Nos adieux furent tristes, les miens surtout, car je n'étais pas certain de la revoir. Je la laissai sans lui faire part de mes projets. J'arrivai à B, la mort dans l'âme. On allait exiger de moi des explications que j'étais résolue à ne pas donner. Monsieur de Saint-Aime était contraint, embarrassé. Toutes mes lettres lui avaient été lues. Il en cherchait vainement le sens. Ma tristesse lui faisait mal. Sans la comprendre, il prévoyait quelque catastrophe. Cette crainte était augmentée encore par le silence pénible dans lequel je me renfermais obstinément. Ma mère et lui attendirent ainsi un aveu qui ne vint pas. Un mois s'était passé de la sorte, le moment du départ approchait. Mes forces étaient à bout. Je voyais arriver avec terreur le moment fatal. Ma mère eut plus de courage. Il ne me restait plus que quelques jours à rester près d'elle. Je la vis un matin rentrer dans ma chambre et s'asseoir près de mon lit. « Camille, me dit-elle, tu as compris, n'est-ce pas, que tu ne peux t'éloigner ainsi de nous? Tes paroles, ta conduite inconcevable, exigent une explication que je te supplie de m'accorder. » Elle ne put en dire davantage, sa voix tremblait. Je baissai la tête sans répondre pendant 2 ou 3 minutes. Soudain, un trait de lumière me traversa l'esprit. « C'est bien, dis-je, Tu veux savoir? Tu sauras tout. Mais pas aujourd'hui. Attends jusqu'à demain. C'est tout ce que je te demande. » Elle se retira. La nuit suivante, je ne dormis pas une seconde. À 4 heures du matin, j'étais debout. En un clin d'œil, j'avais pris mes vêtements. Personne n'était levé dans la maison. J'ouvris sans bruit toutes les portes et je me trouvai dans la rue. Dans les circonstances ordinaires de la vie, j'ai souvent manqué de courage, d'initiative. En face du danger, je me relève. Le malheur me trouve plein de force. Il en était ainsi dans cet instant où je jouais l'avenir de toute ma vie. La lutte probable me donnait un élan surnaturel. À 5 heures, j'étais agenouillée dans la chapelle de l'évêché. Monseigneur de B disait tous les jours la messe à cette heure-là. À l'issue de sa messe, on le trouvait au confessionnal. La réputation de l'éminent prélat était universelle. Homme de génie par excellence, l'évêque de Saintes jouissait d'une suprématie incontestable dans l'épiscopat français. Quant à ses diocésains, il lui avait voué un culte qui ne peut se comparer. On était fiers de lui. J'avais compris que là seulement, je trouverais conseil et protection. La messe finie, je fis un signe au valet de chambre qui la servait pour le prier de prévenir sa grandeur. Il revint aussitôt me dire d'entrer à la sacristie. Je m'en approchai, non pas avec crainte, mais avec une énergie qui tenait du désespoir. Je reçus la bénédiction épiscopale et je m'agenouillai sur le prie-dieu réservé aux pénitents. Ma confession fut entière. Elle devait être longue. Le prélat m'avait écouté avec un religieux étonnement. Ce n'était pas en vain que j'avais compté sur son indulgence. Mes paroles étaient un cri de suprême détresse auquel sa grande âme ne fut pas insensible. Son regard d'aigle avait mesuré l'abîme ouvert sous mes pas. Mes aveux, si pleins de franchise, le prévenaient en ma faveur. Tout ce que la religion chrétienne peut offrir d'encouragement, de consolation, je le ressentis là. Les quelques moments passés auprès de cet homme si grand sont peut-être les plus beaux de ma vie. « Mon pauvre enfant, me dit-il quand son interrogatoire fut fini, je ne sais encore comment tout cela doit se terminer. M'autorisez-vous à user de vos secrets ? Car bien que je sache à quoi m'en tenir sur votre propre compte, je ne puis être juge en pareille matière. Aujourd'hui même, je verrai mon médecin. Je m'entendrai avec lui sur la conduite à tenir. Revenez donc demain matin et soyez en paix. » Le lendemain, à la même heure, j'étais à l'évêché. Monseigneur m'attendait. « J'ai eu, me dit-il, une entrevue avec le docteur H. Trouvez-vous dans son cabinet aujourd'hui avec votre mère. » J'avais prévenu celle-ci la veille. Son anxiété ne peut se décrire. À l'heure dite, nous étions chez le docteur. Ce n'était pas ce qu'on appelle un médecin généralement répandu, mais c'était un homme de science dans toute l'acception du mot. Il avait compris toute la gravité de la mission qui lui était confiée. Elle le flattait dans son orgueil parce que, assurément, c'était la première qui lui arriva de ce genre et je dois dire qu'il était à sa hauteur. Je ne m'étais pas attendu néanmoins à une investigation aussi sérieuse de sa part. Il me déplaisait de le voir s'initier de lui-même à mes plus chers secrets et je répondis en termes peu mesurés à quelques-unes de ces paroles qui me semblaient une violation. Ici, me dit-il alors, vous ne devez pas seulement voir en moi un médecin, mais un confesseur. Si j'ai besoin de voir, j'ai aussi besoin de tout savoir. Le moment est grave pour vous, plus que vous ne le pensez peut-être. Je dois pouvoir répondre de vous en toute sécurité, à mon Seigneur d'abord, et sans doute aussi devant la loi qui en appellera mon témoignage. Je me dispense d'entrer ici dans le détail minutieux de cet examen, après lequel la science s'inclina convaincue. Il lui restait maintenant à faire réparer une erreur commise en dehors de toutes les règles ordinaires. Pour la réparer, il fallait provoquer un jugement en rectification de mon état civil. « Franchement, me dit le bon docteur, votre marraine a eu la main heureuse en vous appelant Camille. Donnez-moi la main, mademoiselle. Avant peu, je l'espère, nous vous appellerons autrement. En vous laissant, je vais me rendre à l'évêché. Je ne sais ce que décidera Monseigneur, mais je doute qu'il vous permette de retourner à elle. De ce côté-là, votre position est perdue. Elle n'est pas tolérable. » Ce qui me surpasse, c'est que mon confrère de L se soit compromis jusqu'à vous y laisser aussi longtemps, sachant ce que vous êtes. Quant à Madame P, sa naïveté ne s'explique pas. Il adressa ensuite quelques paroles d'encouragement à ma pauvre mère, dont la stupeur était à son comble. « Vous avez perdu votre fille, c'est vrai, lui dit-il, mais vous retrouvez un fils que vous n'attendiez pas. » Notre entrée dans l'appartement de M. de Saint-Aime fut un événement. Le noble vieillard se promenait de long en large pour dissimuler son impatience fébrile. À notre vue, il s'arrêta. Ma mère le conduisit à son fauteuil et s'assit à ses pieds. Je me plaçai à quelque distance, peu désireux d'entamer le récit de ce qui venait de se passer. De temps à autre, M. de Saint-Aime levait les yeux sur moi et répondait par une exclamation aux détails que lui donnait ma mère. Stupéfait d'abord, il envisagea la situation avec plus de calme, calculant aussi qu'elle pouvait me donner dans l'avenir une position plus avantageuse. Avec de bonnes protections, on pouvait l'espérer. « C'est égal, disait-il. Il me fallait arriver à 80 ans pour assister à un pareil dénouement, et c'est toi, Camille, qui devais me le procurer. Puisses-tu être heureux plus tard, pauvre enfant ? » J'étais troublée de façon à ne pouvoir répondre. Mon imagination en délire ne pouvait s'arrêter à une idée sérieuse, réfléchie. Par instant, je me demandais si je n'étais pas le jouet d'un rêve impossible. Ce résultat inévitable que j'avais prévu, désiré même, m'effrayait maintenant comme une énormité révoltante. En définitive, je l'avais provoqué, je le devais sans doute. Mais qui sait, peut-être avais-je eu tort. Ce brusque changement qui allait me mettre en évidence d'une façon si inattendue, ne blessait-il pas toutes les convenances ? Le monde, si sévère, si aveugle dans ses jugements, me tiendrait-il compte d'un mouvement qui pouvait passer pour de la loyauté, et ne s'attacherait-il pas plutôt à le dénaturer, à m'en faire un crime ? Hélas, je ne pus faire alors toutes ces réflexions. La voie était ouverte. J'y étais poussée par la pensée du devoir à accomplir. Je ne calculais pas.